Bonjour, bienvenue sur Slash Radio, la radio éphémère des festivals. Vous nous retrouvez sur 106.2 FM. Alors, on est là aujourd'hui pour ce week-end sur le festival Esperanza et plus précisément dans le village des Possibles. Et aujourd'hui, nous accueillons trois associations. D'abord, bonjour Nat, avec qui je vais co-animer.
Salut.
Ça va bien ?
Ça va et toi ?
Pas trop chaud ?
Un peu.
Alors, aujourd'hui, en fait, avec Nat, nous allons discuter d'un sujet assez sensible, mais je pense qu'il est important d'explorer ce sujet. Donc, c'est les questions de migration et le quotidien des personnes en déplacement, de savoir déjà de quoi on parle, de qui on parle, quel est leur quotidien et quelles sont les associations qui viennent en aide ou qui accompagnent ces personnes. Alors, ces associations sont présentes au Village des Possibles et donc nous avons l'ASBL Consta. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Nous avons Nara qui vient parler de l'association, de son association Getting the Voice Out. Bonjour.
Bonjour.
Et nous avons la voix des sans-papiers avec
Alidou.
Alidou. Bonjour. Alors on va demander peut-être déjà une première association de se présenter. Isabelle, peux-tu nous parler de l'ASBL Consta?
En quelques mots, l'ASBL Consta est composée essentiellement de médecins, mais pas que. Et donc on reçoit des personnes qui ont été victimes de tortures ou d'autres traitements inhumains dans leur pays d'origine, qui ont fui leur pays pour cette raison et qui demandent l'asile en Belgique. Notre travail consiste à recevoir ces personnes, à entendre d'abord sur plusieurs consultations, parce que c'est très dur, leur récit des tortures qu'elles ont subies, et puis de les examiner pour constater leurs séquelles physiques, leurs séquelles psychologiques, puis de rédiger un rapport très très complet avec une conclusion, un degré de compatibilité entre le récit qu'elles nous ont fait et les séquelles qu'on a constatées. Ce rapport, on le remet et elles vont le donner à leur avocat et il va permettre d'augmenter quand même nettement leur chance d'être reconnues réfugiées.
Et est-ce que, donc là je comprends qu'il y a, c'est au niveau légal, ce constat peut peser. Et est-ce qu'il y a aussi un accompagnement psychologique ou médical ?
Alors le travail, le but premier du travail n'est pas thérapeutique, mais quand on reçoit quelqu'un, la première chose qu'on va faire, c'est de voir si cette personne est encadrée de façon suffisante, que ce soit d'un point de vue juridique, psychologique, social ou médical. Si on constate que l'encadrement n'est pas suffisant, on ne va pas commencer le travail d'expertise. On va d'abord essayer de trouver des personnes ressources, que ce soit un avocat, un assistant social, un médecin, avant de commencer le travail d'expertise. Et si on estime que la personne est trop fragile, on va d'abord attendre qu'elle soit bien entourée avant de commencer. Le travail en lui-même a aussi un effet thérapeutique parce que souvent ce que ces gens nous racontent, ce sont des choses qu'ils n'ont jamais osé raconter à personne dans autant de détails. Donc on a tout un protocole pour y aller vraiment doucement au rythme de la personne. On respecte vraiment le rythme de la personne. Et à la fin, la plupart des gens nous disent qu'ils se sentent mieux. Même si ça a été très dur pour eux de faire ce travail, ils se sentent mieux d'avoir pu raconter tout ça. Et d'avoir pu être entendu dans les choses les plus terribles qu'ils ont vécues. Donc voilà, il y a quand même un effet thérapeutique.
Alors sans rentrer, l'idée n'est pas de rentrer dans les détails, est-ce que c'est quelque chose que beaucoup de personnes en déplacement subissent, des violences physiques? Et si oui, c'est... Qui leur fait subir ça? Comment ça? Enfin, pour essayer assez généraliste, pas spécialement dans le détail, mais je suppose que c'est au niveau quand les personnes sont en trajet ou dans leur pays d'origine. De quoi parlons-nous?
Alors, en fait, les personnes sur le trajet subissent énormément de violences, mais malheureusement, ça n'entre pas dans le cadre de constat parce que ce n'est pas ça qui va les aider à être reconnus réfugiés. Donc on va en parler quand même des violences sur le trajet, mais essentiellement nous on doit se concentrer sur les violences dans le pays d'origine. Alors ça peut être des violences parce que la personne appartient à la communauté LGBTQIA+. Ça peut être des femmes victimes de violences conjugales, des mariages forcés, etc. Des enfants victimes d'esclavage, des violences pour des raisons politiques, des enfants sorciers. En fait, il y a un tas de raisons pour avoir été victime de violences. Toutes ces raisons peuvent entrer dans le cadre de constat.
Et comment est-ce que une personne qui arrive ici entre en contact avec vous ? Comment est-ce que
alors il y a plein de façons. Les avocats nous connaissent, les centres d'accueil, le bouche à oreille, les psychologues, des associations, voilà, un peu tout le réseau.
Et vous existez depuis quand ?
On existe depuis 2009.
Donc là, je reviens, on parle de l'ASBL Consta, qui est une ASBL qui regroupe plusieurs médecins généralistes et qui vont permettre de constater des tortures et des violences que des personnes ont subies dans leur pays d'origine et qui peuvent aider peut-être ces personnes-là à avoir un statut plus facilement ici suite à cette reconnaissance. Et alors, une dernière petite question. Donc depuis 2019 et comment 2009 pardon. Comment est née l'ASBL en fait, c'est une personne, deux personnes, enfin c'est né comment?
Alors en fait moi je faisais déjà ce genre de rapport mais pour le centre Exil qui avait en son sein un projet qui réalisait ce genre de rapport et on est quatre personnes à avoir quitté le centre Exil en 2009 et avoir fondé Consta ensemble pour être plus indépendant, plus autonome.
Merci Isabelle, on reviendra.
Ok, on va passer à l'association suivante qui est représentée par Nara pour Getting the Voice Out. Est-ce que tu veux du coup commencer par nous présenter Getting et vos activités ?
Ouais, alors déjà peut-être pour un peu de contexte, nous on n'est pas une association, on est un collectif autonome, constitué de personnes militantes et bénévoles. Voilà, ça change aussi ce qu'on est capable de faire et ce qu'on est capable de tenir comme position. Et voilà, ça change aussi la nature de comment est-ce qu'on lutte. Parce que voilà, il faut de tout dans la société civile et il faut soutenir à plein de niveaux différents. Et c'est vraiment cette complémentarité qui fonctionne bien. Du coup, Getting the Voice Out, c'est un collectif autonome, autogéré, contre les frontières et toutes les prisons. Et on se positionne en solidarité avec les personnes qui sont détenues dans les centres fermés, donc les centres de détention pour personnes dites illégales, comme le gouvernement le dit. Donc nous, on est en contact téléphonique avec les personnes qui sont enfermées dans les centres. Donc c'est un contact informel, enfin, on n'a aucun lien avec le centre lui-même. On essaye d'entrer en contact par nos propres moyens avec les personnes, par le bouche à oreille. Et on essaye de faire deux choses. Déjà, de un, faire sortir leur voix. Et c'est le centre de notre lutte. On essaye de faire en sorte que leurs voix qui sont minimisées, qui sont invisibilisées derrière les murs, puissent être entendues, puissent exister en fait et avoir leur place. Donc ça, c'est notre premier travail. Donc ça se matérialise par des témoignages audio, des témoignages écrits qu'on publie, qu'on poste, parfois des communiqués de presse. Et on essaye de parler des centres fermés le plus largement possible. Et le deuxième pan, c'est plus un côté soutien. On essaye de soutenir les personnes comme on peut, et c'est-à-dire on ne fait pas grand-chose par rapport à ce que ces personnes auraient besoin. Idéalement, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir aider tout le monde à sortir, à être libéré. Et voilà, dans le concret, c'est pas ça, mais on essaye de rendre accessibles les liens avec les avocats, parce qu'il y a certaines personnes qui ont plus facile que d'autres pour ça. On donne quelques conseils juridiques tant qu'on peut. On essaye de faire passer du matériel dont les personnes pourraient avoir besoin. On donne des téléphones, on envoie des recharges téléphoniques. Enfin, on essaye de faciliter le contact avec l'extérieur. Et on aura peut-être un peu plus l'occasion d'aller dans le fond du sujet de ce que c'est les centres fermés. Mais aussi pour redire que nous, notre collectif, on se positionne pour l'abolition de tous ces centres, pour l'abolition des frontières, pour un monde sans frontières, sans prison, sans toute forme d'enfermement, et aussi, dans un premier temps, la régularisation de tout le monde, et puis dans un second temps, un monde sans papier et sans où aucune régularisation, aucune frontière, aucun contrôle aux frontières ne devrait être possible.
Oui, donc comme tu le dis, on aura le temps d'aborder plus loin, aller plus en profondeur dans les centres fermés. Mais du coup, je me demandais depuis quand votre collectif existe. Et peut-être combien de personnes en font partie ?
Ouais, bah c'est les centres fermés existent depuis les années. Bon, j'ai plus la date, j'ai en tête début des années 80 qu'ils existent plus ou moins en Belgique. Donc depuis ce moment-là, il y a toutes sortes de collectifs de soutien qui existent pour les différents centres. Suite à la mort de Semira Adamou, qui a été assassinée par la police par étouffement dans un avion quand elle subissait sa sixième ou septième tentative d'expulsion, il y a eu des gros mouvements de solidarité en Belgique. Donc ça, c'était en 98. Et il y a des collectifs qui ont été créés, notamment le collectif contre les expulsions, sur lequel nous, on continue à avancer, même si ce n'était pas le même nom que nous. Mais formellement, Getting the Voice Out, ça existe depuis 2010. C'était déjà des gens qui militaient depuis longtemps avant. C'est un petit peu dur à retracer, mais plus ou moins ça.
Oui, oui. Et puis je pense qu'effectivement, comme tu le dis, depuis la création des centres fermés, il y a eu des gens qui se sont mobilisés pour lutter contre l'enfermement des personnes. Ok, merci.
Merci Nat. Donc on est toujours sur le Festival Esperanza avec Slash Radio et là nous accueillons la troisième association. Merci à Lidou d'être là. Alors toi tu représentes la voix des sans-papiers, VSP. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Bonjour à tous. VSP c'est un collectif qui a été créé depuis 2014. Qui lutte pour la régularisation des personnes sans papiers en Bruxelles. Et voilà, notre mouvement, c'est pour la dénonciation des gens en premier et pour la régularisation. Il faut savoir que VSP, depuis 2014, VSP n'a pas cessé de déménager partout à Bruxelles ici. On a fait plein de déménagements à Bruxelles. Aussi, actuellement, VSP, voilà, depuis sa création, on n'est pas resté sur le même groupe en disant que voilà, c'est le seul occupation qui lutte pour les personnes sans papier. Donc aujourd'hui, VSP, voilà, c'est un collectif qui travaille indépendamment, qui est indépendant. Et les personnes sont bénévoles, qui supportent bénévoles pour travailler pour l'avancement de la collectivité. Aujourd'hui, VSP compte plus de 5 occupations à Bruxelles qui sont autogérées par VSP aussi. Voilà. C'est-à-dire il y a plus en plus de personnes sans papier qui existent à Bruxelles, qui sont plus en nombre, des familles qui en demandent tout le temps des occupations. Et avec VSP, on arrive à créer une ISBL qui s'appelle la voie des sans-papiers. L'ASBL, les amis de la voie des sans-papiers. Et avec l'ASBL, on arrive à ouvrir des occupations. Et pour pouvoir, avec l'ASBL, voilà, quand on ouvre une occupation, avec le propriétaire, on a la facilité de payer les charges, de prendre tout en charge au nom de l'ASBL. Et ça donne la confiance aussi à le propriétaire de dire voilà, ces gens-là sont honnêtes, ils sont sérieux. Donc, c'est avec ça qu'on arrive à créer plus de occupations à Bruxelles aujourd'hui. Et comme je dis tout le temps, c'est la première des choses, c'est pour la régularisation des personnes sans papier. Et le but de ça aussi, c'est pas juste pour rester à la maison et dormir. Non. Plus on est nombreux, plus on a la force, pour pouvoir sortir dans la rue, faire les manifestations, dénoncer la politique migratoire d'aujourd'hui. Et aussi, voilà. Toutes ces années passées à l'occupation, au début, voilà, c'était un peu compliqué pour nous, voilà, parce qu'on déménage à chaque 2 mois, chaque 6 mois. Mais plus en plus qu'on arrive aujourd'hui, actuellement, on est à Rifri Toussaint. Et on est arrivé là-bas en 2019, jusqu'à aujourd'hui, on est toujours là. Et ça nous a permis de créer nos projets, mettre nos projets en place. Et aujourd'hui, je peux dire, voilà, avec cette stabilité, on a pu créer plein de projets que les autres personnes sans papier en bénéficient aujourd'hui. Si je parle de ça, je parle des projets qui s'appellent Yanama, on aura le temps d'en parler plus profondément. Voilà, c'est avec ces projets-là, les personnes sans papier en bénéficient beaucoup. parce qu'avec la régularisation, voilà, on n'a pas de critères clairs pour dire, voilà, dans les dossiers, il faut ça pour pouvoir être régularisé. Les gens qui ont fait 10 ans ou plus de 10 ans, ils déposent leurs dossiers, ils font des bénévoles, ils font des travaux, ils ont les patrons qui les font des contrats de travail. Mais quand on dépose les dossiers, c'est toujours négatif. Même les avocats, ils n'ont pas l'idée claire de ces, qu'est-ce qu'il faut mettre dans ces dossiers, de dossiers-là pour pouvoir être régularisé. Donc, nous, on s'est dit, voilà, on n'a pas cette idée-là. Donc, pour nous, il faut trouver une autre solution. Depuis 2014, on manifeste on, dans la rue, un peu à Bruxelles, partout ici. On rencontre des partis politiques, mais jamais les choses n'avancent pas. Donc, l'idée est de quoi ? De s'asseoir et réfléchir. Bon, dans ces cas-là, qu'est-ce que nous, en tant que personnes sans papier, on peut apporter pour nous-mêmes ? Donc, d'où l'idée est venue, voilà, Yanama, comment accompagner une personne sans papier dans ses démarches administratives en Belgique. Donc, c'est ce projet-là qui nous ouvre. Quand même, avec ce projet, on peut dire, voilà, on est très content d'avoir créé ce projet parce que ça a beaucoup bougé pour nous, les personnes sans papier. Et on est très, très content que cette personne... Aujourd'hui, avec ce projet, j'aimerais bien que, voilà, si à l'avenir, on va encore avoir plus de personnes belges bénévoles qui souhaiteraient accompagner des personnes sans papier, je crois que, voilà, on va passer par ce côté-là pour être régularisé. Parce que si on attend la régularisation collective, c'est impossible en Belgique actuellement. C'est très, très compliqué parce que le gouvernement ne veut pas régulariser. Il dit cas par cas et dans les cas par cas, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut mettre pour être régularisé. C'est le nombre des années ou le nombre de bénévoles ou des attestations ou ces contrats bénévoles ou c'est quoi. On sait rien du tout. Donc,
Vous proposez des lieux. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est une occupation, c'est un lieu, un bâtiment inoccupé, c'est ça, que vous occupez. Vous entrez quand même en contact avec le propriétaire, la propriétaire, pour pouvoir stabiliser cette occupation. Si j'ai bien compris, à Bruxelles, vous en avez 5 et vous arrivez à les tenir.
Oui. En fait, voilà, c'est pas des. On sait qu'à Bruxelles, il y a plein d'occupations et des maisons abandonnées ou voilà, qui est là comme ça. Et nous, en tant que personnes sans papier, on s'est dit, voilà, pourquoi il y a des maisons où il y a personne qui habite là-dedans et nous, on dort dehors. Donc, on occupe ce lieu. C'est pas juste pour faire quelque chose de mauvais dans ce lieu, mais c'est pour transformer ce lieu en tant qu'un lieu d'élite pour nous, un lieu d'élite. Et avec ces liens-là, voilà, aujourd'hui, quand on occupe un bâtiment, on rentre en contact avec la commune, le CPS, la police. On informe tout le monde que voilà, on est là, qui sommes-nous et voilà notre objectif et où on veut aller. Donc c'est comme ça, ça se passe. Et avec des années d'expérience, voilà, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on a fait plein de déménagements à Bruxelles. Et chaque déménagement, ça nous donne des expériences. Et voilà, avec ça, voilà, on arrive à mettre en place voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on occupe un bâtiment. D'abord, le premier, c'est appeler la police et voilà, c'est identifier.
Pour le propriétaire.
Voilà, pour le propriétaire, en disant, voilà, nous, on a occupé ces lieux, voilà, voilà, voilà. Et quand le propriétaire vient, il discute avec les responsables qui gèrent ce groupe-là, voilà. On s'explique, on dit, voilà. On est cette collective qui existe depuis tant d'années et on est passé dans cette commune et voilà ce qu'on nous on voulait. Si le propriétaire il est d'accord, on le propose, voilà, on veut occuper ce lieu pour la lutte des personnes sans papier. Voilà.
Et donc c'est au-delà d'un centre social, mais là j'ai bien compris aussi que vous accompagnez les personnes, c'est un lieu pour pouvoir dormir. On parle à peu près là comme ça sur les 5 lieux, à peu près hein, de combien de personnes et les profils en fait. Est-ce que c'est famille, il y a des enfants, il y a de qui on parle?
Ouais, quand on parle des personnes sans papier, c'est pas seulement des hommes, c'est il y a des familles, des enfants, des hommes âgés, des femmes âgées. Et voilà, c'est toute une famille qui vit ensemble. Et dans ces lieux aussi, ben, ce n'est pas juste pour dormir, comme je l'ai dit tout le temps. Ce n'est pas juste uniquement pour occuper et dormir. Nous, on est là voilà, pour une but, pour la régularisation, bien sûr. Donc quand on occupe ces lieux, voilà, on essaie de transformer ces lieux à la lutte politique ou association, voilà, un truc comme ça.
Oui, c'est ça, vous rassemblez déjà les personnes auprès de vous, vous prenez soin déjà à ce qu'elles ne restent pas dehors, et pouvoir au cas par cas comment vous pouvez accompagner, puisque les questions de régularisation, si j'ai bien compris, elles ne sont pas harmonisées, et donc c'est chaque fois au cas par cas.
Cas par cas, oui.
Et alors, on parle à peu près de combien de personnes comme ça ? Pour l'instant, hein,
ça dépend des bâtiments. Il y a des bâtiments où il y a une soixantaine de personnes avec les enfants, où il y a des bâtiments où il y a 100 et quelques personnes. Ça dépend des bâtiments. Si on a un grand bâtiment où on peut mettre 50 personnes, on met 50 personnes. Si on a un grand bâtiment qui prend 100 personnes, au-delà de ça, voilà.
Et donc, vous proposez tout ce qui est logistique, alors, c'est-à-dire les repas, la nourriture, trouver les ingrédients, je veux dire.
Une fois qu'on occupe l'espace, on sort dans le noyau déjà, il y a des responsabilités qui sont partagées. Il y a l'autre qui s'occupe de tout ce qui est nettoyage. Il y a l'autre qui s'occupe de la cuisine. Il y a l'autre qui s'occupe de la sécurité. Donc, tout ça, c'est organisé en interne. Donc, ce qui veut dire, voilà, il y a des associations aussi qui nous connaissent à Bruxelles ici aussi et qui nous apportent des nourritures, de quoi manger. Et il y a quelqu'un qui s'en charge pour partager à tout le monde, pour que tout le monde puisse avoir quelque chose, de quoi à manger, quoi.
Oui, ça permet de concentrer un peu la solidarité externe et de redonner aussi un statut, une place dans une organisation qui va permettre à tout le monde de vivre. Alors, on va faire une petite pause musicale et puis on se retrouve dans quelques minutes sur Slash Radio. Merci.
J'ai pas pu faire attention, sa mère, j'suis désolé. Y'a pas de problème d'ascension, c'est juste j'suis désordonné. J'ai replay ma chanson, j't'ai vu la fredonner. Ce qui compte, c'est pas la finale, c'est la façon d'avancer. Ça a été pas mon père, j'suis un oiseau, j'ai mes propres ailes. Tant pis si on se perd, j'aurais visité d'autres contrées. J'me les mets à dos dès l'entrée. J'vous aime pas, j'ai rien à montrer. J'sais plus si j'suis resté ado, j'deviens déjanté. Ils font des trucs crado, j'me demande pourquoi vous défendez. J'sais ça doit décanter, moi j'ai pas de programme séquencé. Commence à nous écouter, c'est la meilleure manière de changer. J'me laisse aller sans thème, tout ça c'est pas bon pour ma santé. Pas tard, j'me le grand, j'l'aime alors que c'était même pas mon plan B. J'ai l'air de rien, j'me donne pas d'air, j'fais bugger même les lampadaires. J'veux du calme, j'demande pas d'aide, faut de la place pour penser.
J'ai rien gravé dans la pierre, j'prends tout ce que j'dis pour des faits, j'ai pas besoin qu'on en parle. Parti à rien qui m'attire. Je vais me tenir bien, je vacille, j'ai pas besoin qu'on en parle. J'ai rien gravé dans la pierre. Je prends tout ce que je dis pour des faits, j'ai pas besoin qu'on en parle. Je suis parti à rien qui m'attire. Je vais me tenir bien, je vacille, j'ai pas besoin qu'on en parle.
Fermez-la tous sur les outils, je vais la faire cette maison. Tu sais, je peux pas trop t'embrouiller, j'ai que la pose sur les os. Pourtant, c'est un de mes songes, tout n'a pas de bonne raison. Non, allez. Laissons, mais toutes les portes elles sont fermées, j'entends même plus le caisson. C'est toi qui es sombre, j'ai des questions, j'attends même plus de réponses. Le temps que je me trouve, l'univers avait changé de saison. Je suis dans mon trou, je veux me diriger encore plus profond. Ça y est, c'est plus mon pote, j'ai rangé tous les souvenirs dans une boîte. Je vais pas regarder la cote, je fais le pari, on verra ce qui se passe. Ces vampires aspirent nos âmes, puis ils nous laissent de glace. C'est tant pis, je donne ma place, je sais c'est pas la mort de se tailler. Mental de gauche, m'emballer, je roule ma bosse en galère. La fosse s'agrandit, moi j'ai pas peur. Je mets mon flow, ça ventile, je voudrais des grandes avancées. Plus tard je serai gentil, mais là j'ai pas de cœur.
J'ai rien gravé dans la pierre. Tu prends tout ce que je dis pour des faits, j'ai pas besoin qu'on en parle. Je suis parti, y'a rien qui m'attire. Je vais me tenir bien, je vacille, j'ai pas besoin qu'on en parle. J'ai rien gravé dans la pierre. Tu prends tout ce que je dis pour des faits, j'ai pas besoin qu'on en parle. Je suis parti, y'a rien qui m'attire. Je vais me tenir bien, je vacille, j'ai pas besoin qu'on en parle. J'ai rien gravé dans la pierre. Tu prends tout ce que je dis pour des faits, j'ai pas besoin qu'on en parle. Je suis parti, y'a rien qui m'attire. Je veux me tenir bien, je vois si j'ai pas besoin qu'on en parle.
A punto de perder la razón. De demasiadas noches sin dormir. Conversábamos en el salón de las cosas que nunca te di. Me mal acostumbraba a ganar. No sé cuándo me olvidé de ti. ¿Quién me mandaría a mí apostar? Esta vida no está hecha para mí. All eyes on me, me va a reventar. Quieren todo de mí, no se lo puedo dar. Voy a brindar por lo que viví, por lo que me ha llevado hasta aquí. Le daré tiempo al tiempo, por si viene la muerte. Nadie me lo toca sin salir mal parado. Esta presión de mierda me está jodiendo el pecho. Como los 30 que me fumo jugando al arcao. Papá, voy a ganarlo, no sufras por la money. Tú solo dame tiempo y te jubilo en la ola. Y zombie me va a reventar. Quieren todo de mí, no se lo puedo dar. Voy a brindar por lo que viví, por lo que me ha llevado hasta aquí. Le daré tiempo al tiempo.
Et voilà, nous sommes de retour sur Slash Radio, la radio éphémère des festivals. Aujourd'hui, nous sommes sur le festival Esperanza et vous pouvez nous retrouver notamment sur 106.2 FM. Nat, à toi.
Alors du coup, dans la première partie de présentation des assos, on a abordé plusieurs concepts relatifs aux migrations, tels que la demande d'asile, la régularisation, les centres fermés. Et donc dans cette deuxième partie, on se proposait de revenir un peu plus en profondeur sur ces différents concepts. Voilà, donc nous on avait l'impression que quand les personnes arrivent en Belgique, la majorité des gens commencent par faire une demande de, qu'on appelait avant demande d'asile et demande de protection internationale maintenant. Donc je proposais à Isabelle d'un peu définir ce concept, si ça te convient.
Bon, je suis médecin, je ne suis pas juriste, donc ça ne sera peut-être pas 100% top. Donc la personne doit d'abord se présenter à l'Office des étrangers et pour ce qu'on appelle la petite interview, où elle doit expliquer en gros pourquoi elle demande l'asile. Et puis elle va attendre, parfois très longtemps, avant d'être convoquée au commissariat aux réfugiés et aux apatrides, donc le CGRA. Et là, la personne va passer une interview qui va durer, en général, c'est minimum une demi-journée, parfois plusieurs demi-journées, et où elle va être interrogée en détail sur tout ce qu'elle a vécu, sur toutes les raisons pour lesquelles elle demande l'asile. Donc là, elle va être interrogée par des personnes qui ne sont pas forcément formées aux personnes vulnérables. Et donc, ce sont des interviews qui ressemblent un petit peu à des interviews de type policier, avec beaucoup de questions très précises, un ping-pong de questions. Et quand les personnes sont très traumatisées, et elles le sont quasi toutes, c'est extrêmement difficile de pouvoir répondre correctement à toutes ces questions. Après, les personnes vont attendre la décision et donc parfois ça peut durer aussi très longtemps. Et si elles apprennent qu'elles sont refusées, elles ont droit à un recours au Conseil du contentieux des étrangers. Et là, ça va être plutôt une audience avec un juge qui va aussi leur poser certaines questions. Et donc après ça, elles vont attendre la décision. Si elles sont refusées, elles peuvent entamer une nouvelle demande d'asile. En fait, on peut entamer autant de nouvelles demandes d'asile qu'on veut, à condition qu'on possède des éléments nouveaux. Un rapport de chez Constat peut constituer un élément nouveau pour pouvoir introduire une demande d'asile. Et donc, nos rapports peuvent intervenir en fait à tous les stades d'une procédure d'asile. Et même quand une personne a été déboutée et se retrouve illégale, le rapport peut servir à introduire une nouvelle demande d'asile. Voilà, en gros, parfois les personnes se trouvent en centre fermé et là aussi, on peut aller les visiter et établir un rapport. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Ok, oui, merci. Moi, je voulais souligner l'importance de votre collectif quand tu disais que c'était traumatisant pour la personne de raconter son histoire. Comme tu dis, vous les écoutez avec bienveillance une première fois. Donc, je pense que c'est très important. Je pense que Nara souhaitait intervenir.
C'était aussi sur quelque chose de plus général au niveau de la thématique de la migration. Qu'en fait, beaucoup de personnes ne voient pas trop la différence qu'il y a à parler de personnes sans papier ou privé de papier, parler de personnes réfugiées, parler de migrants. Et en fait, c'est peut-être un petit peu pour rappeler déjà que toutes les personnes en migration ne font pas forcément une demande d'asile, parce qu'une demande d'asile, qui est aussi appelée une demande de protection internationale, bon, sachant que moi, je ne suis pas juriste non plus, hein, donc je dis ce que je pense, et si ça se trouve, je dis n'importe quoi, donc désolée d'avance. Donc une demande d'asile, c'est une demande de protection internationale. Donc c'est quand on demande à la Belgique d'avoir un statut de protection et donc d'être reconnu comme réfugié et d'avoir certains droits. Mais beaucoup de personnes qui vivent un parcours migratoire ou qui n'ont pas de papier ne font pas forcément de demande d'asile et demandent que leur situation soit régularisée sans forcément passer par le parcours de la demande d'asile qui souvent doit être pour des raisons très définies. On ne peut pas être reconnu réfugié pour plein de raisons, alors qu'on peut migrer pour plein de raisons différentes, comme il y a plein de Belges qui migrent dans plein de pays, juste parce qu'ils ont envie de changer de pays. Et donc, il y a de tout. Et en fait, ce que ça veut dire aussi être sans papier, c'est un terme un petit peu général pour dire qu'on n'a pas de titre de séjour en Belgique. Ça ne veut pas dire forcément qu'on n'a pas de papier. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, ils ont leur passeport, ils ont un papier de leur pays national, ils en ont parfois plusieurs d'ailleurs. Sauf que la Belgique ne leur reconnaît pas le droit de rester sur le sol. Donc, c'est plus une question de visa qu'une question de papier. Donc, voilà, ça c'est aussi peut-être pour un peu changer nos imaginaires qu'on a. Quand on parle de personnes sans papier, on a vite en tête les personnes qui fuient leur pays pour des raisons super graves et dramatiques. Et pour ça, il y en a énormément, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et il y a une multiplicité d'histoires et de vécus derrière ces mots-là, quoi.
Oui, effectivement, en fait, donc comme tu dis, le statut de réfugié qu'on obtient quand on a fait une demande d'asile, c'est basé sur 5 critères qui ont été définis en fait en 1951 par la Convention de Genève. Donc c'est vraiment il y a très longtemps, et il y a beaucoup de raisons de migrer qui ne sont pas reconnues dans cette définition-là. Et donc je pense que c'est effectivement, comme tu dis, important de souligner ça. Et effectivement, des papiers, il y en a de toutes sortes, et tout le monde a plein de papiers dans tous les sens. Et, voilà. Du coup, on voulait voir avec Alidou qui justement proposait d'expliquer, enfin a beaucoup parlé de régularisation qui sont d'autres manières d'accéder au séjour. Je ne sais pas si tu souhaites parler un peu.
La régularisation, ça s'est fait en 3 phases de régularisation qui existent. Il y a la régularisation normale qu'on connaît et il y a la régularisation familiale. Il y a une régularisation aussi par type de maladie qui s'appelle Nefter. Donc, il y a Nefbis, Nefter, familial. Donc, Nefter, il faut avoir une certaine maladie qu'on ne peut pas soigner chez toi. Ça peut se dire, voilà, avec ces maladies, tu peux avoir. C'est Nefter que j'en parle. Il faut avoir ce type de maladie qui est très très proche de la mort. Nous, on le considère comme ça, on le dit comme ça. Il faut être près de la mort pour pouvoir avoir ces régularisations. Parce que ce n'est pas un diabète ou un truc comme ça, non. En tout cas, moi, ce que je n'ai vu à l'occupation, toute personne qui a eu qui a obtenu la régularisation de Nefter, c'est des maladies qu'on considère, la Belgique considère que chez toi, dans ton pays, on ne peut pas soigner ce type de maladie. Il n'y a pas de médecin qui peut soigner ces maladies. Et il n'y a pas pas assez d'hôpital pour soigner ces genres de maladies. Là, à ce moment-là, et pour ça aussi, voilà, ton avocat va te donner l'attestation ou ton médecin qui te suit depuis très longtemps, il va remplir tout ce qu'il y a à remplir et il va envoyer à l'office. Et l'office, ils ne vont pas accepter directement et ils ont leur propre médecin qui va examiner encore ton dossier et si seulement lui, il accorde que ouais, la personne est vraiment atteinte ces maladies, à ce moment-là, l'office peut accorder la régularisation. Et la régularisation 9 bis, voilà, c'est comme toute personne sans papier qui arrive ici en Belgique, comme elle vient d'expliquer tout à l'heure. Il y a des personnes comme, je prends le cas des Marocains, qui n'ont pas le droit à l'asile, donc ils sont des immigrés ici. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est demander la régularisation ou faire reconnaissance d'un enfant ou un mariage. C'est avec ce côté-là qu'ils peuvent obtenir les papiers. Donc, tout, en général, ce qu'on fait, voilà, d'habitude, on dit quand il fait 3 ou 4 ans en Belgique, voilà, à ce moment-là, tu peux demander la régularisation, mais ça n'a pas des années pour demander la régularisation. Et quand tu déposes ton dossier, voilà, on fait des témoignages, on fait des attestations, des bénévolats. Et la question qui se pose, la Belgique nous pose tout le temps, vous n'êtes pas intégré en Belgique, donc voilà, vous n'êtes pas assez, vous n'êtes pas des gens qui, vous n'avez pas de lien en Belgique qui fait que la Belgique doit vous régulariser. Donc nous, on est passé de ce côté-là, voilà, on fait des témoignages entre amis ou quelqu'un que je connais depuis très longtemps, voilà, qui, je lui demande de faire un témoignage à mon nom. Et on voit aller voir les patrons, voilà, qui souhaitent engager ou tu travailles avec les patrons pendant des années, mais en cassette. Voilà, et tu demandes s'il peut te faire une attestation de quoi, en disant que si tu as tes papiers aujourd'hui, il peut t'engager directement pour accéder à un travail. Donc, avec ça, on regroupe tout cela, on met dans un dossier, on dépose. Mais ce n'est pas juste par coup de sens, ça peut passer. Ou on peut faire la même chose dans le dossier de quelqu'un d'autre et ça ne passe pas. Donc, ce côté-là, on n'a pas de critères, on ne sait pas à quoi il faut mettre dans le dossier pour être régularisé. On le fait seulement par coup de sens. Si ça passe, ça passe. Sinon, voilà, c'est très compliqué de dire ce qu'on peut mettre dans ce dossier pour être régularisé. Et la régularisation familiale, voilà, c'est soit par tu fais un enfant avec une Belge, ce que les avocats conseillent beaucoup et qui n'est pas quelque chose à faire. Donc voilà, faire un enfant avec un Belge ou tu peux demander, faire maintenant la régularisation familiale ou vous êtes marié en tant que deux couples. Là, tu peux faire aussi la régularisation familiale aussi ou des personnes sans papier qui ont un enfant ici et l'enfant part à l'école et demande la régularisation au nom de cet enfant. Et par ça, maintenant, vous pouvez faire le groupement familial pour pouvoir obtenir le titre de séjour. Voilà les trois thèmes de régularisation qui existent. Que nous, on pense, voilà, il y a d'autres comme cohabitation légale entre amis aussi qui existent. Et voilà, ce côté-là, nous, on ne conseille pas vraiment les personnes sans papier de s'engager. Parce qu'une fois que tu fais cela, il faudra aller à la commune pour dire, voilà, j'habite avec telle ou telle personne. Et c'est très, très compliqué parce qu'une fois que tu mets ton pied au commissariat, donc la police a l'obligation de t'arrêter et tu peux te retrouver au centre fermé. Donc, voilà le thème qui existe.
J'ai une petite question concernant, alors je ne sais pas très bien de quoi je parle, mais peut-être que tu vas pouvoir nous éclairer. Je sais que maintenant on est en train de mettre en place, l'Europe est en train de, d'externaliser via des hotspots, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi on parle ? Qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place ?
Ce côté-là, je ne sais pas, je suis pas trop, je ne connais pas trop là-dedans. Mais...
Oui, non.
Oui, bah donc pour le moment, ce qu'on a en Belgique, c'est les personnes qui n'ont pas de titre de séjour ou qui séjournent, entre guillemets, illégalement sur le territoire belge. On les enferme sur notre territoire actuellement. Donc, il y a 6 centres fermés en Belgique et on les met là en attente de leur expulsion. Mais bah, y a, enfin, là, je reprends les mots du gouvernement, mais il n'y a pas assez de place. Les politiques migratoires sont de plus en plus strictes et ils veulent enfermer de plus en plus, expulser de plus en plus. Et leur objectif, c'est aussi de se laver les mains de beaucoup de choses. Donc là, bon, c'est des questions super complexes. Il y a déjà, dans un premier temps, tous des liens avec d'autres États, par exemple avec la Turquie. Il y a beaucoup de liens et d'accords pour que les personnes soient arrêtées et renvoyées directement à l'extérieur des frontières de l'Union européenne. Donc ça, c'est déjà depuis beaucoup d'années. Mais là, la Belgique a annoncé dans le dernier accord de gouvernement, et ils sont en train de concrétiser ça, qu'on voulait faire des centres fermés, en gros, à l'extérieur des frontières. Bon, et il y a plusieurs choses avec ça. Ils veulent aussi construire des prisons pour personnes sans papier en dehors de nos frontières. Donc pour le moment, il y a un projet en Croatie, je pense, si je ne me trompe pas. Et voilà, ça avance et on ne fait que recopier certains autres États européens comme le Danemark qui font déjà ça depuis un petit temps. Et les hotspots dont tu parlais juste avant, le plan, c'est qu'il y ait des espèces de centres de tri rapides externes aux frontières de l'Union européenne. Donc avant même de rentrer dans le territoire européen, une espèce de mini office des étrangers qui va pas du tout faire, enfin bon, de toute façon l'office des étrangers pour moi, ne fait pas du bon travail et n'essaye pas de comprendre le vécu des personnes pour décider qu'en fait elles sont illégales sur le territoire. Mais là ça va être encore plus rapide, il y a des décisions de recours encore plus courtes, c'est des interrogatoires tout est raccourci, et l'objectif en fait c'est de faire des petites procédures l'air de rien et puis que les personnes puissent être rejetés et ne puissent même pas accéder aux frontières européennes. Donc ça, c'est un projet de l'Union européenne qui est notamment pas mal piloté par les agents Frontex. Bon, et ça, on pourrait en parler aussi longtemps, mais voilà, il se passe aux frontières de l'Union européenne, il se passe des choses dont on n'a même pas idée pour le moment, et à mon avis, on entendra dans quelques dizaines d'années ce qui se passe. On aura des images et on tombera de haut, quoi.
Là, on a déjà une petite idée.
Oui,
hein.
on a quand même une petite.
Plein de petites idées. Sinon, tu peux juste repréciser, c'est quoi Frontex ?
Oui, donc Frontex, c'est l'agence, c'est une agence de l'Union européenne qui est le nom complet, c'est agence des gardes-frontières, gardes-côtes, quelque chose comme ça. Et donc, c'est présenté comme les personnes qui veillent à la sécurité de l'espace de l'Union européenne. Donc, ils jouent beaucoup sur ce côté sécurité, mais en fait, concrètement, c'est la police des frontières. Ils essayent de refouler les personnes aux frontières externes de l'Union européenne. Donc, ça peut être, par exemple, on entend beaucoup du côté de la Pologne, du côté de la Méditerranée, et à la fois aux frontières sur la terre et aux frontières sur la mer. L'objectif, c'est dissuader, renvoyer les gens et... il y a très peu de regards, enfin, même si tu disais on a quand même une idée de comment ça se passe, on a une idée dans plein de cas, mais on imagine bien que vu l'horreur des choses qu'on apprend déjà, on n'imagine pas tout ce qu'on sait pas encore. Et ça, Frontex, le budget de Frontex par l'Union européenne ne fait que augmenter depuis un petit temps. Là, avec le nouveau pacte européen de l'asile et la migration, il y a encore plus de pouvoir pour Frontex. C'est, voilà, on voit à quel point c'est de pire en pire. Et à quel point ça veut aussi dire beaucoup sur la militarisation de nos États européens, parce que Frontex, en fait, c'est le bras armé de l'Union européenne qui se revendique comme une union non armée, non militaire, mais en fait, tout le contraire.
Merci pour cette précision.
Comment on peut constater la complexité, le peu de différentes procédures d'accès au séjour. C'est assez interpellant et tu soulignes en expliquant à la Frontex que en fait c'est déjà hyper compliqué d'arriver en Belgique, et une fois que les gens sont ici, ils ont peu de possibilités de demander le séjour. Donc voilà, je pense que je souhaitais souligner l'importance de vos différents collectifs pour accompagner les personnes. On avait évoqué le fait de définir le concept de centre fermé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur...
En quelques mots, les centres fermés, c'est des prisons pour des personnes que nous on dit qui sont privées de papier par l'État, auxquelles l'État sur lequel ils séjournent refuse de leur donner un titre de séjour valable. Et donc l'État, donc ici en l'occurrence en Belgique, l'État décide d'enfermer ces personnes dans des centres qu'il appelle centres fermés, mais qui est une manière un peu, au final, un peu enjolivée et édulcorée pour parler de prison, parce que tout est similaire, voire pire d'après le témoignage des personnes aux prisons. Et donc les personnes sont enfermées dedans pour une durée indéterminée. On a souvent l'impression que c'est des courts séjours, mais en fait, c'est rare que les... Enfin, souvent, les gens restent entre 3 et 6 mois, mais parfois, on a des gens qui restent pendant plus d'un an. Le maximum, aujourd'hui, c'est 18 mois. Mais j'ai en tête 30... enfin, le nouveau pacte migratoire européen augmente cette possibilité de détention. J'ai en tête 36 mois, mais c'est quelque chose de cet ordre-là. Donc voilà, ça risque d'être pire en pire. Et donc, la différence avec les prisons, c'est que les personnes ne savent pas pour combien de temps elles sont là, qu'il y a la menace de l'expulsion par avion qui plane au-dessous de sa tête, donc on reçoit un ticket et quelques jours après, on est mis dans un avion avec de la police, de l'intimidation, des violences physiques, verbales, psychologiques, et on est pressurisé pour accepter entre gros guillemets, l'expulsion vers son pays d'origine. Donc ça, c'est les centres fermés en gros de gros. Et sinon, en fait, un peu tout l'imaginaire qu'on a autour des prisons, c'est comme ça que ça se passe dans les centres. Sauf avec encore moins de visibilité, il n'y a pas d'association, il n'y a pas d'accès à des soins de santé corrects, il y a à peine des distractions, il y a très peu d'accès avec l'extérieur. C'est encore plus isolé que les prisons. Et souvent, sous couvert que les personnes sont là pour des raisons illégales, parce qu'elles sont illégales et aussi elles sont là pour un court séjour. Enfin, c'est souvent ce que l'État belge met en avant, alors qu'en fait, pas du tout. Et beaucoup de gens font plusieurs séjours dans les centres.
Et est-ce qu'on parle d'enfants aussi ? Qui est là ?
En fait, oui. Théoriquement, déjà on parle de femmes et d'enfants. On parle de femmes et d'hommes, pardon. Et donc majeurs. Théoriquement, avant, il y avait une possibilité d'enfermer les familles. Et là, c'est depuis quelques années que le gouvernement a décidé qu'il ne faisait plus ça. En fait, concrètement, il y a quand même de temps en temps des enfants. Parce que pour être reconnu comme mineur par l'État belge, c'est quand même parfois compliqué. Il y a des tests osseux et on sait à quel point il y a des biais racistes. Et donc, on est de temps en temps en contact avec des jeunes qui ont 14, 15, 16, 17 ans et qui se retrouvent en centre fermé, qui ne savent pas ce qu'ils font là, qui sont dans une détresse hyper forte aussi. Parce qu'on les a reconnus comme majeurs, quoi. Mais donc, pour le moment, il n'y a pas d'enfants, de détention d'enfants. Mais dans son accord début 2025, le gouvernement Arizona a annoncé, pour le moment, on maintient l'interdiction de détenir les enfants, mais on va réexaminer cette affirmation chaque année à partir de l'année prochaine. Donc, en fait,
ça c'est risque.
Oui, en fait. Et surtout, ce que Alidou, tu disais juste avant, le fait que l'État belge considère souvent que les enfants sont, je mets des guillemets, instrumentalisés par les parents pour obtenir des papiers. Et donc, il y a aussi toute une répression qui se concentre sur les familles, sur les enfants, comme si, en fait, ils n'étaient que des objets utilisés par des parents en recherche de papiers. Enfin, on entend vraiment toutes des choses. C'est super scandaleux.
Juste, Alidou, une petite question, elle est peut-être naïve, hein, du coup, vous êtes des personnes sans papier, on sait où vous trouvez parce que vous êtes dans des espaces visibles. Comment est-ce que, justement, est-ce que la police débarque et peut venir vous chercher ou comment est-ce que vous prenez soin de vous en vous regroupant pour prendre soin de vous, mais en même temps ne pas être directement visible et au risque que la police débarque?
Comme tout à l'heure, je disais, une fois que nous, on occupe un espace, on doit avoir le contact avec le bourgmestre et le CPS et la police aussi pour dire que voilà, on est à ce lieu-là. Une fois que si le propriétaire des bâtiments aussi, et après ça, on va avoir une discussion avec le propriétaire, la commune et tout. Et si ça se passe très bien, on va demander de signer un contrat pour dire que voilà, on habite à ce lieu et ce lieu nous appartient jusqu'à la fin de ce contrat. Donc à ce moment, à partir de ce moment-là, la police n'a pas le droit de rentrer dans cette occupation sans notre autorisation.
Qui vient de changer à ce niveau-là, justement. On parle, dis-moi, précise, parce que là, je lance comme ça, mais j'ai entendu le mot rafle, de venir dans les domiciles. On ne demande pas à la police s'ils ont une autorisation pour venir, pour débarquer. Et...
Oui, ça, c'est la loi qui a été votée tout récemment. En tant que même un Belge qui héberge une personne sans papier, la police peut débarquer un moment, il vient récupérer la personne sans l'autorisation. Mais dans les occupations, vous avez, comme j'ai dit, en fait, on est tout proche avec la commune, avec la commune, le CPS et la police. Donc les personnes qui habitent dans ces communes-là, ils ont tous été soit au CPS, en fait, ces personnes qui sont déjà identifiées Et parmi nous, il y a beaucoup qui ont déjà leur dossier en cours de régularisation. Donc,
avec, il y a un peu voilà, une ambiance diplomatique.
Voilà, ce côté-là, il y a un peu de diplomatique et un peu de la sécurité par rapport à ça aussi. Donc, parce que dans la maison, voilà, on est organisé à 7h, la porte est fermée à 1h du matin, la porte est ouverte à 6h. Donc, ce côté-là, en tout cas, ces cas-là, ça n'a jamais, on n'a jamais arrivé.
Ça vous protège, enfin, vous protégez, c'est pas bon mot, mais ça vous met temporairement un peu en sécurité.
Oui, plus en sécurité, parce qu'une fois qu'on signe la convention, voilà, on se sent en sécurité parce qu'on sait que la police ne peut pas débarquer à tout moment. Donc quand la police a besoin de quelque chose, quand il arrive, il demande les responsables. Et là, nous, on peut se présenter, voilà, qu'est-ce qu'il y a, ou le problème. Et là, parfois, ça nous arrive qu'on appelle la police parce qu'il y a un truc qui est rentré à la maison et que voilà, nous, on souhaite que cette personne soit de la maison. Donc on appelle la police et la police, elle arrive et fait sortir la personne.
Oui, c'est
parce
ça.
Parce qu'il n'habite pas dans ses lieux, il n'est pas enregistré à ses lieux.
Oui, c'est encore autre chose. En fait, vous êtes une occupation et du coup, il faut un ordre d'évacuation de la police pour... Est-ce que je me trompe, je ne sais pas si c'est à Bruxelles ou en France où il y a eu... très peu de temps, ben justement, un lieu évacué.
Oui, ça a eu à Anderlecht, si je ne me trompe pas, où la police est arrivée par la force, il a expulsé les occupants par la force. Et j'étais pas sur place, mais voilà ce que les amis m'ont dit. Et le bourgmestre a dit que voilà, il n'a pas la force ou le pouvoir pour pouvoir interposer ce côté-là. Je ne sais pas si le bâtiment, si c'est bâtiment communal ou privé. Ou, voilà. Quand c'est privé, ce côté-là, une fois que le propriétaire ne vous voulait pas dans cet lieu, c'est obligé que vous quittez ce lieu. Si vous dites non, voilà, la police va intervenir par la force.
Merci pour cette précision. On va faire une petite pause musicale maintenant. Merci.
Thank you.
voilà, nous sommes de retour sur Slash Radio, la radio éphémère des festivals. Aujourd'hui, ce week-end, nous sommes sur Radio Esperanza et je suis avec Nat. Nous accueillons trois collectifs, l'ASBL Consta, l'organisation Getting the Voice Out et les voix des sans-papiers. Merci. Et on parle des questions de migration et de l'accueil des personnes migrantes. Et nous sommes là pour la troisième et dernière partie. Nat, à toi.
Voilà. Du coup, moi, j'avais une question à poser à chacune et chacun d'entre vous. Pourquoi vous êtes ici à Esperanza? Qu'est-ce que ça apporte à votre collectif? Et qu'est-ce que vous souhaitez apporter aux festivalières et festivaliers? Du coup, Isabelle, est-ce que tu souhaites commencer avec Consta?
On est ici depuis 4 ans et donc premièrement le but c'était de faire du réseau, de faire de la sensibilisation, puis aussi de recruter des nouveaux médecins parce qu'on est en manque de médecins. On a une liste d'attente de 1 an, c'est énorme. Malheureusement cette année il y a un but qui s'est rajouté, c'est qu'on a perdu notre principale source de financement qui nous venait des Nations Unies à cause de l'arrivée de Donald Trump qui a coupé le fonds USAID. Et donc, on est aussi ici maintenant pour faire une récolte de fonds. Et donc, on a un peu calculé que si 600 personnes nous donnent un petit don récurrent de 5 euros par mois, on peut arriver à récupérer en fait ce qu'on a perdu. C'est à la fois beaucoup, 600 personnes, mais c'est à la fois pas trop. Et donc, on a bon espoir de pouvoir toucher suffisamment de personnes sur le festival pour nous aider à survivre.
Et donc, si on a envie de participer, comment est-ce qu'on fait?
On va sur le site et on a directement un lien vers la collecte de dons.
Est-ce que tu peux nous donner l'adresse du site?
C'est consta au pluriel.
Consta au pluriel.
.be.
Merci.
Merci à vous.
Oui, pour Getting the Voice Out, nous, on est avec des camarades contre les frontières et on tient un stand depuis quelques années déjà. Et nous, on trouve ça super important de venir visibiliser la voix des personnes enfermées ici, donc de faire connaître les centres fermés, faire connaître la voix. Donc, c'est vraiment ce qu'on aime trouver à Esperanza parce qu'il y a des tas de personnes qui sont assez sensibilisées à plein de choses, mais qui connaissent très peu la question des centres fermés, des frontières, la lutte contre les prisons. Et on a chaque fois des discussions super riches et même d'un autre point de vue, c'est super chouette de faire partie d'un endroit où on sent que les luttes vont vers une même direction et on peut un peu faire des liens, notamment la question des centres fermés, c'est super lié à l'antifascisme, à l'antiracisme, à la lutte pour des conditions de vie en général plus décentes et ça fait vraiment sens pour nous d'être ici comme chaque année.
Merci Nara de Getting the Voice Out. Alidou, pour la voix des sans-papiers.
Pour la voix des sans-papiers, ça fait plusieurs années que nous, on vient à Esperanza. Et nos buts, c'est pour sensibiliser les personnes et passer des messages aussi à des festivaliers ici à Esperanza. Des années, de nombreuses années, voilà. Et aussi parler de nos projets, de nos luttes. Et c'est ça, en gros, je vais dire. Pour la voix des sans-papiers, parler de nos projets, essayer de sensibiliser pas mal de personnes qui connaissent toujours pas encore la lutte, la voix des sans-papiers. Et pour la voix des sans-papiers, on est un peu partout, on est sur Instagram, Facebook, TikTok.
Vous avez un site et donc le site il s'appelle comment?
Tu écris seulement la voix des sans-papiers de Bruxelles sur Facebook et tu tombes sur notre page et vous pouvez nous soutenir par des petits pouces, par des commentaires et ainsi de suite.
Et à part en plus du petit pouce sur le post Facebook, comment est-ce qu'on peut vous aider?
Sur le post Facebook, il y a plusieurs manières d'aider, soit par des commentaires pour dire voilà. En gros, ce que vous en pensez. Et aussi, il y a le compte de bancaire de la voix des sans-papiers aussi tout en bas pour les personnes qui ont envie de faire des dons aux personnes sans-papiers pour les aider à payer leurs factures d'eau ou quelque chose.
Et vous arrivez à créer du contact ici? Il y a des personnes qui viennent vous voir? Vous avez le temps de discuter
Ça rejoint un peu vos espoirs ?
Ah, c'est vraiment génial. Et oui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que je contactais par mail ou par téléphone avec qui je travaillais, je n'avais jamais vu. Et quand on vient à Esperanza, ça donne l'occasion de les rencontrer. On a aussi recruté beaucoup de nouveaux médecins, pas que des médecins, des gens qui peuvent nous aider, qui sont restés à constat. Et donc, c'est vraiment chouette. Puis ça redonne de l'espoir. Parce qu'il n'y a pas que cette lutte-là, il y a toutes les luttes ici, en fait.
En parlant des... Merci. En parlant d'espoir, Nat, tu as une jolie question de fin.
Voilà. Du coup, oui, avant ça, on a un peu évoqué comment on peut... On voulait évoquer la question de comment on peut aider les différentes assos. Donc, je sais que Constat a parlé aux médecins qui nous écoutent, qui peuvent rejoindre le collectif, et de votre campagne de dons. Est-ce qu'il y a autre chose pour l'instant qu'on peut faire ?
Je dois dire que pour l'instant, l'essentiel, c'est de survivre avec des dons. Ouais.
Ok, bah voilà, avis à ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent. Est-ce que Nara, tu souhaites partager ce qu'on peut faire pour soutenir Getting the Voice Out ?
Ouais, il y a plein de choses. Bah, déjà, parler des centres fermés, partager la voix des personnes, en parler à ses proches, à sa famille, le visibiliser dans son lieu de travail, c'est super important parce qu'il ne faut pas que ça reste dans l'invisible. Donc ça, c'est peut-être quelque chose de concret que je pense qu'il faut qu'on fasse tous, parce que c'est super essentiel et ça veut dire beaucoup pour les gens aussi qui sont enfermés, de savoir qu'il y a des gens dehors qui ne s'en foutent pas en fait de ce qu'ils sont en train de vivre. Et sinon, plus concrètement, nous on récolte pas mal d'argent et on envoie de l'argent sous forme de recharge téléphonique aux personnes enfermées dans les centres fermés. Donc nous on garde aucun argent pour nous. Les dons qu'on reçoit, on les renvoie directement sous forme de recharge téléphonique, et on envoie aussi des petits téléphones dans les centres pour permettre aux gens de contacter les personnes dehors. Donc ça, c'est des trucs très concrets où nous il y a toujours besoin d'aide. Et puis si la question des centres fermés vous anime et vous fait vivre, on est toujours en recherche de gens pour nous aider, passer des appels, envoyer du soutien aux gens. Mais voilà, il faut aussi savoir que ça demande pas mal de temps, d'énergie, et que c'est assez difficile. Donc voilà, nous on cherche des forces qui vont pouvoir aussi rester sur le long terme et soutenir, parce qu'il y a vraiment du boulot.
Et là, vous êtes sur Bruxelles, c'est ça ? Mais il y a différentes villes, non ? Il y a Liège,
ouais.
C'est ça ?
Dans un monde idéal de militance, il y aurait un collectif par centre fermé, parce que ça permet beaucoup plus du niveau local. Ouais. Là, ça existe à Liège. Il y a un collectif qui s'appelle le CRACP, qui fait un peu comme ce que Getting fait. Et on voit à quel point c'est bien et à quel point aussi les Liégeoises et les Liégeois sont mobilisés contre le centre fermé à Votem, donc qui est un peu en dehors de Liège. Nous, vu qu'on se concentre sur tous les autres centres fermés en Belgique, c'est vraiment difficile d'avoir cette efficacité dans les luttes. Donc nous, on est surtout sur Bruxelles, mais pas que. Mais Getting est surtout actif sur Bruxelles. Mais nous, on est super disponibles. Et voilà, notre rêve, ça serait aussi que des choses se lancent en Flandre, parce que la plupart des centres fermés sont en Flandre. Et il y a vraiment beaucoup de choses à faire au niveau local là-bas aussi.
Et donc, vous pourriez accompagner la création de nouveaux collectifs locaux.
Totalement. Ça serait le rêve.
Merci, Nara. Alidou, tu voulais ajouter quelque chose ?
J'aimerais bien ajouter par rapport à qu'est-ce que les gens peuvent soutenir par rapport à nos projets Yanama, par exemple. On a pas mal besoin des bénévoles belges qui souhaiteraient accompagner des personnes sans papier sur cet projet-là. Parce que voilà, c'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur. Et avec ce projet, quand même, on a eu pas mal de succès aussi avec ce projet-là. Et on a toujours besoin des bénévoles belges pour accompagner ces projets.
Et je pense, mais tu vas me préciser, que vous avez lancé aussi un projet dédié aux enfants des familles sans papier, c'est ça ?
Oui,
tu peux en dire quelques mots ?
Projet qui s'appelle Paikon. On parlait des personnes sans papier, des enfants sans papier aussi, et que les parents n'ont pas assez de moyens pour pouvoir que les enfants partent en vacances. Et donc, toute période de vacances, les enfants sont à la maison, il n'y a pas d'activité, il n'y a rien du tout. Et ce projet, voilà, c'est pour réunir les enfants, ces enfants-là, les enfants qui ont des papiers ou sans papiers, sont les bienvenus tous. Donc, voilà, pour créer des jeux, des trucs, soit des jeux, des dessins, voilà, pas mal de jeux à réaliser le jour J. Comme ça, les enfants peuvent jouer ensemble, voilà, s'amuser. Et au retour à l'école, voilà, quand les camarades vont les demander qu'est-ce que tu as fait pendant tes vacances, il a quelque chose à rencontrer, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc, pour que les enfants ne soient pas trop stressés dans ce côté-là. Donc, ce projet, voilà, c'est pour ce côté-là qu'on a créé ce projet.
Peux-tu rappeler le nom du projet ?
Paiku.
Et ça, on peut retrouver...
Pour le moment, comme c'est un projet qui vient d'être arrivé, donc on n'a pas encore créé le site sur ce projet-là, mais ça a un coût. Et voilà, c'est un projet qui a été créé cette année, on peut dire, qu'on a pu s'avancer beaucoup là-dessus. Quoi.
Donc, si on est intéressé par ce projet, on peut vous contacter notamment via Facebook ou par
Facebook,
mail. Merci.
Voilà, du coup, une dernière petite question à vous trois. On avait envie de parler un peu d'utopie, de rêve ou simplement peut-être, croisant les doigts, d'avenir. À quoi ressemblerait un monde dans lequel on n'aurait plus besoin des différents collectifs parce que les droits de toutes et tous seraient respectés ? Je ne sais pas, Isabelle, si tu souhaites commencer.
On peut peut-être résumer ça avec la très belle chanson de Tiken Jaffa Coli, Ouvrez les frontières.
Qu'on a déjà accueilli en studio. Merci Isabelle. Que narrata.
Ouais, y a une phrase qui a été dite par une de mes camarades qui est dans la lutte depuis longtemps. J'ai l'impression que j'oublie une partie, mais c'est un peu quelque chose comme ça, du genre s'il y a pas d'État, il y a pas de frontières. S'il y a pas de frontières, il y a pas de migration, juste des voyages. Et je pense que ça sera un peu le monde dont moi je rêverais. C'est un monde où il y a plus de frontières, plus de papiers, et où quiconque qui veut voyager puisse voyager où il le veut. Où il n'y aurait pas de prison, pas d'enfermement, où la peine privative de liberté serait interdite, comme la peine de mort est interdite dans beaucoup de pays, et où, voilà, pour moi, ça donnerait quelque chose de beaucoup plus juste.
Tout à fait.
Merci.
Merci, Lara.
Je pense que quand j'étais tout petit, sans savoir que s'il y a une frontière qui existe ou il y a tous ces trucs qui existent. Assez bon. Si aujourd'hui on me pose la question, est-ce que tu souhaiterais redevenir un enfant, je dirais oui, parce qu'à ce moment-là, je ne connais pas de frontières ni rien du tout. Donc j'ai fait ma vie et je suis tranquille. Donc si ce moment-là arrive, quand même, je crois que ça sera un très 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 bon moment pour que tout le monde puisse profiter et voyager, faire ce qu'il a envie de faire et de ne pas être discriminé par quoi que ce soit, par un simple document. Pour dire que voilà, tu n'as pas le droit de voyager, telle personne a le droit. Pour moi, je trouve pas ça. Je trouve ça un peu. Pas de mots à justifier ce côté-là, mais si on arrive un jour à créer un monde où tout devient normal comme on le souhaite, quand même, voilà, ça va être très très chouette.
Un monde où il n'y a plus d'injustice.
Croisons les doigts.
Oui, un petit mot de la fin, Nat ?
Je souhaitais vraiment vous remercier d'avoir participé à cette émission et de participer à cette édition d'Esperanza. Je pense que c'est vraiment important de passer vos messages et de lutter pour un monde plus juste pour nous toutes et tous.
Merci Nat. Alors si vous venez de nous rejoindre ici sur la fin, vous pouvez effectivement retrouver en podcast sur notre site radioesperanza.be. Voilà, puis on se retrouve tout bientôt, et donc sur 106.2 FM/radio, la radio des éphémères des festivals. Merci, à bientôt.
Merci.
Merci.
Merci.